Gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Et Radio MDM à la rubrique littérature dans la déroba de vendredi, Médicis, Goncourt, Renaudot. La saison des prix littéraires s'achèvera le 2 décembre prochain après l'annonce de la lauréate du prix Fémina des lycéens. Enfin, s'achève pas tout à fait, hein. Il est d'autres concours littéraires, certes moins prestigieux sur le papier, sans mauvais jeu de mots, mais qui font la part tout aussi belle à des plumes trop puissantes, hein, justement moins célèbres qu'au hasard une Christine Angot. Il s'agit des nominés pour le prix Mémorable, décerné depuis 2008 par le groupement des libraires indépendants qui, ironie salue la réédition d'un auteur malheureusement oublié, ou d'un auteur étranger décédé encore jamais traduit en français ou alors d'un inédit ou d'une traduction révisée complète donc d'un auteur. Il et elle sont 10 à concourir pour ce prix qui sera attribué en janvier prochain. Des ouvrages que vous pouvez retrouver dans les rayons de la médiathèque Philippe Labeyrie à Mont-de-Marsan. Deux favoris se détachent dans le cœur de Dominique Soulé au sein du pôle adulte, La vie seule de Stella Benson et Tea Rooms de Louisa Carnes. Premier focus d'ailleurs sur cette singulière autrice espagnole.
Louisa Carnes, elle est née en 1905, elle. Donc il y a quand même, c'est un auteur des années 30 hein, en Espagne. Elle était féministe, militante, communiste, engagée à fond, vraiment. D'ailleurs, elle est née dans une famille d'ouvriers. À 11 ans, elle travaillait déjà dans une usine. Elle était complètement donc autodidacte. Elle a lu elle-même tout ce qui lui passait sous la main. Et petit à petit, elle est devenue écrivain, elle est devenue journaliste. Et d'après les critiques de l'époque, en tout cas, c'était quand même un des meilleurs écrivains de cette époque. Femme. Donc déjà, à cette époque, les femmes, on en parlait moins. Ouais. Et comme elle s'est beaucoup battue contre Franco et elle a dû s'exiler au Mexique à la fin de la guerre, bien sûr, elle a été censurée par Franco et c'est pour ça que petit à petit on l'a complètement oubliée. Et donc là, il vient d'être réédité Tea Rooms, qui fait partie donc de cette sélection. Histoire assez intéressante, donc il a été édité en 1934. Et récemment, là, il y a un jeune homme qui a fait une thèse en Espagne hein, sur ce livre-là. Du coup, il en a parlé. Et ils ont décidé de le republier à très peu d'exemplaires, une cinquantaine d'exemplaires, avec l'autorisation de la famille. Ouais. Un critique littéraire a lu ça, a trouvé ça formidable et a fait en sorte que ça soit réédité vraiment à plus grande, avec beaucoup plus d'exemplaires. Et de là, il y a eu une critique extraordinaire. Les Français ont décidé de le traduire et de l'éditer. Et c'est la Contre-Allée, donc une super édition, qui donc a décidé de l'éditer. C'est traduit par Michel Ortuneau et... Et on a pu enfin découvrir ici Louisa Carnes. Un sacré livre, on a l'impression qu'il a été écrit là récemment.
D'accord.
Alors qu'il est sorti en 1934. Il était considéré comme un roman reportage. Et c'est vraiment ça. On a l'impression d'être dans un envoyé spécial. Donc ça se passe dans un salon de thé, tout propre, tout le monde est en uniforme. Il y a de tout là-dedans. On imagine vraiment le grand salon de thé
on est où,
de l'époque. On est à Madrid, on est en 1934. Et on a l'impression donc qu'il y a des caméras dans tous les coins et on va suivre donc ce salon de thé avec les clients qui sont tous de tous bords, qui rentrent, qui sortent et l'héroïne qui vient elle tout juste d'être embauchée, qui galère, qui doit faire manger sa mère et ses enfants et ses frères et sœurs, qui vient juste d'être embauchée et 6 autres serveuses qui ont chacune leurs problèmes personnels. Et donc on apprend comment c'était à cette époque-là, en 1934, à Madrid. Voilà, toutes ces femmes, tous ces hommes, ce balai de clients, de gens, une responsable qui est épouvantable avec eux, qui fait de l'abus de pouvoir, un patron qui vient une fois par semaine donner la paye, qu'ils appellent l'ogre, qui est épouvantable aussi.
On sent que c'est une période de... Enfin, pas une période de transition, mais on sent qu'il est en train de se passer les choses.
Complètement. Et donc, il y a... Alors, on voit vraiment leurs soucis, leurs craintes. Et dans la rue, il y a les premiers syndicalistes qui commence à défiler, quoi. Ouais. Et à disparaître. Et elle se pose des questions, notamment l'héroïne. Est-ce que je vais dans la rue et je perds mon boulot? Est-ce que pas? Qu'est-ce que je fais? Bon, voilà. Et on voit que c'est du vécu parce qu'elle, elle a beaucoup manifesté, elle s'est beaucoup battue et elle a travaillé aussi dans un salon de thé. Alors, c'est super. Moi, voilà, comme je disais, c'est très actuel. C'est des phrases très courtes, percutantes, parfois sans verbe, comme un reportage, quoi. Ouais. C'est très intéressant. Je dirais même passionnant. Il y a une force dans ce livre. Donc, je pense que Louisa Carnes, elle est vraiment à découvrir et à ne pas oublier. Du coup.
Seconde favorite.
Moi, je veux que ça soit des femmes. Stella Benson, donc La vie seule. Alors, Stella Benson, elle est un peu plus vieille que Louisa Carnes. Elle est née en 1892, elle. C'était une poète, écrivain, militante aussi, elle faisait partie des suffragettes, donc elle a beaucoup, beaucoup voyagé, elle n'a pas hésité à, pendant la guerre, aider les femmes pauvres à les récupérer, à leur donner à manger, elle est allée en Chine, dans des hôpitaux, enfin bon, c'est une femme hyper active. Elle a eu le prix Femina des écrivains anglais en 1932 quand même, donc pareil, elle était quand même très connue. C'est un peu une pionnière des romans fantasy. Hein, c'est toujours un peu décalé ce qu'elle écrit. Voilà, donc elle a fait quand même une vingtaine de bouquins, mais il n'y en a que deux qui sont traduits en France. Hein, donc ouais. Déjà, on ne pouvait pas beaucoup la connaître. Et là, donc La vie seule, qui a été publiée une première fois en 1919, et là qui vient juste d'être édité par les éditions Cambourakis, traduit par Leslie Lebon. Donc c'est un roman fantastique complètement satirique, hein, qui se passe pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, en Angleterre, avec une héroïne qui a la vie complètement transformée après la rencontre avec une sorcière. Donc ça se passe en Londres en 1918, bon la guerre en finit pas, il y a des bombardements, ils vont dans les caves régulièrement, et notre héroïne donc est seule, elle n'a pas le sou, elle n'est pas en très bonne santé, elle traîne dans les œuvres de charité, dans les comités, avec des bonnes femmes moralistes, qui ont de l'argent, qui sont un peu prout-prout, voilà. Donc elle est dans cet univers-là, donc est plutôt un quotidien assez morne, hein, quand même. Et un jour, elle rencontre donc une sorcière complètement fou-folle, qui est un personnage assez formidable, qu'on a envie de suivre, même en lisant le livre, hein. On aimerait bien qu'une sorcière arrive comme ça chez nous, pour la suivre, et qui lui propose de s'installer à La vie seule. La vie seule, c'est sa pension, là où elle... recueille un peu tous les gens qui sont pas en forme. Donc elle va arriver là-bas, La vie seule, avec son chien qui s'appelle David, et sa valise qui a un nom aussi, je sais plus comment elle s'appelle.
Ah, la valise a un nom.
La valise a un nom.
J'aime les gens qui donnent des noms aux objets.
Et alors là, va suivre, c'est quasiment pas résumable, des aventures complètement rocambolesques, des rencontres folles. Et avec tout ça, elle met des petites notes sociales et politiques quand même, qu'elle balance bien au passage, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est une curiosité littéraire complètement, ce livre. Hein. C'est une surprise, c'est quelque chose à découvrir. Les dialogues sont incroyables. J'aimerais bien lire un petit extrait, deux petits extraits très différents qui donnent l'idée du modernisme de ce bouquin écrit en 1919 quand même. Ce matin-là, alors qu'avec David, donc le chien, elle venait juste de prendre place dans le bac bercé par le roulis, elle avait entendu un halètement, comme si quelqu'un à côté d'elle était essoufflé. Elle avait alors vu Carole, le balai, avait poussé un petit paquet contenant des sandwichs sur ses genoux. Et puis il disparut, alors qu'elle avait juste eu le temps de se demander si les balais s'attendent généralement à recevoir un pourboire. C'est juste pour avoir une idée un peu de ce qu'il y a dans ce bouquin incroyable. Et le deuxième, il est évident que les moineaux achètent leurs vêtements dans des boutiques de prêt-à-porter, très probablement en solde. Ils ont d'ailleurs toujours l'air d'avoir jeté leur dévolu sur des vêtements taillés pour des oiseaux bien plus costauds qu'eux. Il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas l'air chic. Ils sont par exemple plus élancés que les bouvreuils qui réussissent, eux, à être toujours bien accoutrés.
Une petite légèreté à l'avion ou des choses comme ça.
Ouais, voilà.
Qui lui-même était en avance sur son temps.
Donc je pense qu'il faudrait découvrir Stella Benson. Voilà. Et pour finir, je voulais juste parler, mais c'est très court, d'une chronique qui est sur chaque mois à la BNF, donc Bibliothèque Nationale de France, qui s'appelle Fière de Lettres. F-I-E, accent grave, R-E-S, de Lettres. Voilà, et qui met en lumière une œuvre d'écrivaine méconnue. On s'est à télécharger gratuitement sur Gallica et on découvre aussi des auteurs super.
Pour rappel, la vie seule de Stella Benson, recommandée par Dominique Soulet, et Tea Rooms de Louisa Carnes, parmi donc les favorites, selon elle, pour le prix mémorable. Votre serviteur concédera quant à lui un faible pour Le Chant des Plaines de Wright Morris et pour Les Confessions de Robert Irlandais de Brendan Behan, verdict en janvier prochain. Tous ces ouvrages sont à ce jour disponibles à la médiathèque Philippe Labeyrie à Mont-de-Mars.
Papa na bana o iyo, o ko nanga ye bande ko papa. MDM, votre radio locale.